106. Jamais je n'aurai de disette, car le Seigneur est mon berger. Je vivrai sous la houlette de celui qui ne peut changer. Je sais, Jésus, que tu m'as
pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur, un larron. Et celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix et l'appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent pas ce que c'était qu'il leur disait. Jésus donc leur dit encore, « en vérité, je vous dis que moi je suis la porte des brebis. Tous, autant qu'il en est venu avant moi, sont des voleurs et des larrons, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. Mais l'homme qui reçoit des gages et qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup et laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup les ravit et disperse les brebis. Or l'homme à gage s'enfuit parce qu'il est un homme à gage et qu'il ne se met pas en souci des brebis. Moi, je suis le bon berger et je connais les miens et je suis connu des miens. Comme le Père me connaît et moi, je connais le Père. Et je mets ma vie pour les brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que je les amène elles aussi. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime. C'est que moi, je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Et encore à partir du verset 27. Mes brebis écoutent ma voix et moi je les connais et elles me suivent et moi je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jusque-là, la parole de Dieu au début. Jean, l'apôtre Jean a dans ses grands écrits, ça veut dire l'Évangile, la première épître et l'Apocalypse, dans ces trois écrits, il a trois grands sujets. L'ordre de ces sujets est différent dans ces trois écrits, mais ces trois sujets sont compris dans ces trois écrits de lui. C'est, et je prends maintenant l'ordre que nous avons ici dans l'Évangile selon Jean, c'est premièrement qu'il parle de la vie. C'est deuxièmement, c'est les chapitres 3 à 7. C'est deuxièmement, il parle de la lumière, c'est chapitre 8 à 12. Et troisièmement, il parle de l'amour, c'est chapitre 13 à 17. Et ces trois sujets, vie et lumière et amour, il a toujours dans ces trois écrits, mais dans une différente ordre. Chapitre 8 et 9 nous montrent que le Seigneur est venu comme la lumière. Premièrement, par ses paroles. Et là, on peut même commencer par sa personne. La personne de lui-même était la lumière. Il était clair que lui n'était pas seulement une lampe, il était la source de lumière, la lumière elle-même. Et on a pu voir en lui Dieu, parce que lumière veut dire révélation. Mais après, il a parlé aux hommes, aux Juifs, à ceux qui ont écouté. Il a parlé et par ses mots, par ses expressions, par ce qu'il a exprimé, par la parole, on a pu voir lui et la lumière. Et qu'est-ce que les Juifs ont dit? En fait, ils ont rejeté la lumière. Ils ont rejeté premièrement la personne, deuxièmement les paroles de notre Seigneur. Chapitre 9 montre troisièmement qu'il est venu comme lumière avec les œuvres. C'est le miracle qu'il a accompli pour cet aveugle. Et quelle était la réaction de ce peuple? Ils ont rejeté cet aveugle qui a pu voir après comme le Seigneur. Et c'est clairement montré comme ils ont rejeté cet homme qui n'a pas plus être, qui n'a plus être parmi eux dans la maison de Dieu et parmi ce peuple même. Ils ont rejeté cet homme. Et le Seigneur nous montre maintenant dans le chapitre 10 que d'un côté, c'est la responsabilité de ceux qui ont rejeté le Seigneur, qui ont chassé cet homme comme le Seigneur au dehors de leur cercle. Mais en même temps, c'était le Seigneur lui-même qui, parce qu'il a su ce rejet, et pas seulement cela, parce qu'il a voulu accomplir l'œuvre de Dieu, parce qu'il a voulu accomplir les conseils de Dieu, il a voulu former une toute neuve, une troupeau, un troupeau qu'il a pris des dehors des Juifs, comme nous avons vu dans les premiers versets, comme nous avons lu dans le verset 3, et il appelle ses propres brebis des Juifs, ceux qui étaient vraiment des brebis, ceux qui étaient vraiment des croyants, par leur nom, et les mène dehors. Parce que le système des Juifs était déjà dans ce temps-là, et Jean nous montre que le Seigneur était rejeté dès le début, que ce système était déjà un système sous la domination de Satan. Et le Seigneur ne va jamais laisser quelqu'un qui veut le suivre, qui cherche vraiment le salut, il va ne jamais laisser une personne comme cela sous ce système, sous cette domination de Satan. Il va le prendre, il va le mener dehors. Et deuxièmement, nous avons lu dans le verset 16, il a aussi d'autres brebis, ceux qui ne viennent pas de... des Juifs, mais qui étaient venus des païens, des nations, et eux aussi, il faut que je les amène, et dit, elles aussi, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça veut dire, il a formé tout un troupeau neuf, nouveau, pour soi-même, au dehors de tout autre système. Et il montre le caractère de ce troupeau dans les chapitres 11 et 12. Chapitre 11 qui montre qu'il faut accepter que nous étions tous morts par nos fautes et péchés, comme Lazare était mort. Il faut recevoir la vie qui n'est jamais en nous-mêmes, mais qui est un don de Dieu pour nous. Et deuxièmement, il montre dans le chapitre 12 le caractère de ce troupeau qui entoure le Seigneur qui était à Béthanie dans cette maison et qui a le caractère de ceux comme Lazare qui étaient morts, qui se sont ressuscités, qui ont le caractère de Marthe qui a servi. Nous sommes tous les serviteurs. Et troisièmement, le caractère de Marie qui a adoré le Seigneur. Ce sont des adorateurs. C'est le nouveau troupeau que le Seigneur a formé. Et pour cela, il fallait que le Seigneur soit devenu le bon berger. Que le Seigneur a dû mourir pour ce troupeau. Ça veut dire que ce n'était pas possible d'avoir un troupeau pour lui-même, pour Dieu, sans un fondament qui a la base de sainteté de Dieu, qui est formé sur la base de la lumière de Dieu. C'est le sujet de ces chapitres, lumière. Dieu n'a pas pu être ignorant des péchés de nous. Alors, il fallait un fondement juste, un fondement saint, un fondement d'après les exigences de Dieu. Et pour cela, il était nécessaire que le Seigneur ait devenu ce bon berger. En effet, ce berger a dû répondre à plusieurs conditions. Par exemple, on a lu dans ce premier verset, « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. » Alors, il fallait entrer par cette porte. Il est intéressant que le Seigneur parle ici de trois portes, en fait, trois portes différentes. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais la première porte ici, c'est clairement les écrits de l'Ancien Testament. Ça veut dire le Seigneur a dû répondre à ces conditions que l'Ancien Testament a données pour celui qui peut être le Messie. Par exemple, Isaïe 7, il était nécessaire d'être né par une vierge. Merci, par une vierge. Certainement, il y a une seule personne qui était née par une vierge, c'était le Seigneur. Et il y avait d'autres conditions, mais je ne veux pas entrer sur ce sujet trop ici. Chapitre 10 parle vraiment magnifiquement de notre Seigneur. Je vais juste donner quelques petites remarques sur cela, parce que c'était notre cantique et aussi notre prière sur la personne de ce bon berger. Il est dit dans le verset 3, « Les brebis écoutent sa voix. » Et voilà, il y avait une personne qui a eu une autorité morale que ceux qui ont voulu entendre, qui ont voulu suivre le Seigneur, ont écouté sa voix. Pour ainsi dire, étaient obéissants. Les 11 disciples, par exemple, d'autres qui sont suivis le Seigneur dans son temps ici sur la terre. Cette maison de Béthanie, et il y avait plusieurs brebis qui ont écouté la voix du Seigneur, ça veut dire pas seulement par les oreilles physiques, mais par les oreilles de cœur, pour être obéissants, pour le suivre, pour avoir une nouvelle vie, une vie éternelle. Et le Seigneur les a menés dehors. Il a commencé par cet aveugle. Après, nous voyons certainement, dans un sens absolu, c'était seulement après la mort et la résurrection, la glorification du Seigneur, qu'il a mené dehors de ce système. Et c'est exactement cette exhortation que nous trouvons dans Hébreux 13, de se séparer de ce camp juif qui est juste aujourd'hui encore. Mais c'était une longue procédure pour Pierre et pour les autres de vraiment laisser derrière eux ce camp des Juifs. Et le Seigneur ne les a pas menés dans un nouvel camp. Mais il les a amenés dans une atmosphère, dans une sphère de liberté. On le voit plus tard encore. Il est dit dans le verset 4, « Il va devant elle. » C'est magnifique que le Seigneur était devant ses brebis, que le Seigneur était devant ses disciples. Ils ont pu suivre le Seigneur. Et c'est vrai pour nous aussi, n'est-ce pas? Certainement, le Seigneur n'est plus sur la terre aujourd'hui. Suivre le Seigneur aujourd'hui ne veut pas dire que nous pouvons voir le Seigneur devant nous. Suivre le Seigneur veut dire aujourd'hui que nous regardons dans la parole comment le Seigneur a vécu, nous voyons la manière de sa vie, nous voyons les étapes de sa vie, et nous le suivons et nous sommes capables. Pourquoi? Parce que nous sommes ses brebis, nous sommes capables de le suivre parce que nous avons la capacité, pas en nous-mêmes, mais par ce don de vie que Dieu nous a donné par lui. Et nous suivons le Seigneur. Ici, c'est un fait. Il va devant eux et le suivent alors. Mais certainement, c'est la question, est-ce que c'est juste, pratiquement dans ma vie, que je suis le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment lui qui est devant mes yeux, les yeux de mon cœur, pour le suivre, pour obéir à ce Seigneur? Ici, c'est le résultat de ce qu'il a fait. Et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Ils ont eu l'habitude d'écouter le Seigneur, d'avoir des oreilles pour lui. C'est pour les 11, c'est absolument juste. Aussi pour les apôtres dans les Actes, aussi pour beaucoup d'autres croyants et serviteurs du Seigneur. Est-ce que c'est vrai pour nous que nous connaissons la voix de notre Seigneur positionnellement et dans un certain sens abstrait. Je crois c'est certainement c'est vrai pour chaque croyant, pour chaque croyant. Mais la question, est-ce que nous sommes capables de distinguer entre toutes ces voix qui existent aujourd'hui autour de nous par des incrédules, comme même dans ce champ, pour ainsi dire, des chrétiens. Et il y a autant des voix que nous entendons, que nous écoutons, que nous pouvons écouter. Mais est-ce que nous avons nos oreilles fixées sur la voix de notre Seigneur? Est-ce que pour nous, c'est vraiment une habitude de savoir c'est la voix de mon Seigneur? On le trouve dans la parole. C'est la voix de notre Seigneur. Et par cela, nous sommes capables de distinguer. Et certainement, le Seigneur nous donne aussi des aides, des dons dans l'Assemblée pour nous aider à vraiment être capables d'écouter, à savoir, de distinguer sa voix de tous les autres. Pour cela, il ne faut pas, on a dit souvent, avec justesse, qu'il ne faut pas connaître toutes les autres voix. Est-ce que nous connaissons vraiment sa voix? Comme il est dit dans le verset 5, ils ne suivront point un étranger. Il est intéressant pour les jeunes, et pas seulement pour vous les jeunes, mais aussi pour nous, de suivre une autre voie, quelqu'un qui parle différemment. Pour notre chair, pour notre curiosité, c'est toujours intéressant. Mais c'est toujours dangereux. Dangereux. Est-ce que la mesure pour nous est toujours la parole de Dieu? Le Seigneur nous instruit exactement cela ici. Les disciples n'étaient pas capables de comprendre le Seigneur. On n'a rien à dire sur les disciples. Est-ce que nous sommes capables de comprendre? Nous avons l'Esprit Saint. Les disciples à cette époque-là n'ont pas encore eu l'Esprit Saint comme une personne qui habitait en eux. Mais nous avons l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous avons toute la parole qui nous instruit. Alors nous sommes capables de comprendre. Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous sommes instruits dans la parole? Est-ce que nous, comme parents, est-ce que nous avons instruit nos enfants pour qu'ils comprennent par leur cœur, certainement, ces mots, ces expressions, ces paroles de notre Seigneur? Après, nous voyons dans le verset 9, c'est la troisième porte, « Moi, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Alors le Seigneur est aussi lui-même la porte pour entrer dans cette sphère où on a la vie éternelle. C'est que par la personne de notre Seigneur qu'on peut être sauvé. Il faut venir vers le Seigneur et lui seul. Et il y a autant de religions aujourd'hui. Mais il y a un chemin vers Dieu. Il y a une possibilité de vraiment connaître Dieu, d'être sauvé, et c'est que par la personne de notre Seigneur. Est-ce que chacun dans cette salle ce soir peut dire vraiment, j'ai accepté Jésus comme sauveur, c'est que par lui. C'est comme Pierre le dit dans Actes 4, où il dit, Actes 4, verset 12. Acte 4, verset 12. « Et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » Il a parlé avant le verset 10 du nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que que vous, vous avez crucifié. Et il y a ce seul nom par lequel on peut être sauvé, et pas seulement peut être, mais chacun qui vient au Seigneur, qui confesse ses péchés au Seigneur, il est sauvé. Et il y a une sécurité pour cela, on voit plus tard. Est-ce que nous avons accepté Jésus comme sauveur? Mais le Seigneur nous dit ici, ce n'est pas la seule chose. Il entrera et il sortira et il trouvera de la pâture. Et voilà, le Seigneur nous n'amène pas à un autre champ d'esclavage. Mais il nous ouvre une sphère, une atmosphère de liberté. Et j'espère bien que nous comparons, que nous instruisons nos enfants que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose où il faut faire cela, et où il est interdit cela et l'autre chose. Certainement pour nous comme croyants, il est clair qu'on ne fait pas certaines choses et qu'on fait d'autres choses. Mais la vie d'un chrétien, c'est une vie de liberté, c'est une vie où il y a autant des choses à faire pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas un esclavage. Ça sera vraiment une fausse doctrine même, une fausse pensée. La vie pour nous, c'est une vie de joie. C'est une vie où on a autant des possibilités de communion avec le Seigneur, de communion avec les croyants, de suivre le Seigneur, de glorifier le Seigneur. Et il nous donne une liberté, entrer et sortir. Est-ce que moi, je vois ma vie comme cela? Quelquefois, j'ai l'impression que nous pensons, c'est comme un champ vraiment, un camp, où on a quelques petits mètres pour faire quelque chose. Non, la vie est vraiment une ouverture pour une porte qui nous ouvre un champ, une sphère où il y a une magnifique sphère pour vivre pour le Seigneur. C'est le caractère de notre temps. Vraiment, la liberté, certainement pas la liberté pour mon cher, mais la liberté pour glorifier Dieu. C'est un peu, je compare avec ça, si je dis à mes enfants, vous pouvez aller jouer maintenant dehors. Et je ne vais pas dire, vous devez jouer ce jeu ou l'autre jeu. Il y a autant de jeux qu'il peut faire. Sans doute, il y a des jeux que je ne veux pas qu'il le fasse. De se battre, par exemple. Ça peut être aussi un jeu, mais pas le jeu que j'aime bien. Mais il y a autant de jeux qu'il puisse faire. Et c'est la même chose pour nous comme croyants. Il y a autant des choses, des chemins, des activités, des actions qu'on puisse accomplir. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous montre ici. Et le Seigneur est là. C'est le point d'attraction. Que dans cette atmosphère, dans cette sphère, dans ce champ, si vous voulez, c'est le Seigneur qui est le centre. Celui qui était mort pour moi et qui me donne nourriture. Il trouvera de la pâture. Et il y a la paix là-bas. Où le Seigneur est, il y a la paix. Où l'homme agit, il y a le conflit. Où mon chair agit, il y a le conflit. Il y a la guerre peut-être. Mais où le Seigneur est, c'est la pâture, la nourriture utile et aussi la paix. Il est totalement contraire à ce voleur. Le Seigneur ne prend pas, il donne. Le Seigneur ne tue pas, il donne la vie. Il ne détruit pas, mais il encourage, il bâtit, il édifie. C'est le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il était venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Je ne suis pas sûr que nous avons vraiment le sentiment, la conscience, que notre situation est totalement différente des situations de tous autres croyants dans d'autres temps. Pensons par exemple à Abraham ou à David. Ils ont eu la vie nouvelle, certainement. Ils ont eu, ils se sont convertis, même si les expressions ne sont pas utilisées dans l'Ancien Testament. Mais de suivre Dieu, d'être obéissant à Dieu, ça peut être seulement avec la vie nouvelle. Mais ils n'ont pas eu la vie en abondance. Parce que, premièrement, ils n'ont pas eu le salut sûr. Parce que la base du salut était faite seulement beaucoup plus après, quand le Seigneur est venu. Ils n'ont pu pas dire... Il y a quelqu'un qui a ôté mes péchés, parce que la croix était plus tard seulement. Ils n'ont pas connu le Sauveur, le Seigneur. Ils n'ont pu pas dire, la vie éternelle, c'est notre part pour toujours. Ils n'étaient pas même capables de dire, j'ai un pardon éternel. Parce que la base n'était pas encore faite, c'était plus tard. David a pu parler dans le psaume 32, je crois, sur le pardon, mais c'était toujours ponctuellement. Et pour cela, ils ont eu toujours peur. Il y avait toujours dans leur vie cette situation qu'ils avaient eu peur qu'ils ont perdu ce salut. Comme par exemple David dit dans psaume 51, où nous trouvons sa repentance après son péché avec Bathsheba. Et il dit, dans le verset 11, psaume 51, verset 11, « Ne me renvoie pas devant ta face et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. » Clairement, il était croyant, mais il n'a pas eu cette sécurité, cette conscience que la vie reste toujours, que la relation avec Dieu sera éternellement pour lui. Mais pour nous, c'est différent. Nous avons la vie en abondance parce que nous savons, nous pouvons savoir que nous avons cette vie. Alors, le Seigneur dit, verset 11 et verset 14, « Moi, je suis le bon berger met sa vie pour les brebis. » Quelle expression! Nous savons que dans l'Évangile selon Jean, le Seigneur reprend cette expression dans Exode de comment Dieu s'est révélé à son peuple, « Je suis que je suis, je suis. » Et cette fois, le Seigneur ajoute ici à cette expression un autre mot, une autre parole. Et ici, avec le bon berger, c'est la quatrième fois. C'est tout au milieu de cette expression que le Seigneur utilise. Je suis le bon berger. Oui, c'est la base. La base de notre salut, la base de notre joie, la base de notre sécurité. La base de notre abondance. Je suis le bon berger qui a laissé la vie pour nous. Nous pensons à ce que était nécessaire pour devenir ce bon berger. Que le Seigneur qui est la vie, comme il est dit par exemple dans chapitre 11, chapitre 14, mais celui qui est la vie a dû laisser sa vie. Comme il est dit dans le verset 17 et 18 de notre chapitre, elle a dû laisser sa vie pour que d'autres soient capables d'avoir cette vie, pour qu'ils puissent donner cette vie à nos ses brebis. Elle a laissé sa vie. On peut continuer avec cela, mais j'aimerais utiliser le reste de ce temps pour montrer que le Seigneur comme berger n'est pas le seul berger. Le Seigneur, nous voyons comme le bon berger, nous voyons Hébreux 13 comme le grand berger ou pasteur, et dans 1 Pierre 5 comme le souverain pasteur ou berger. Et quand nous pensons à lui comme le souverain pasteur, berger, ça nous montre qu'il y a d'autres bergers, d'autres pasteurs qui existent, qui travaillent sous sa main. Et nous apprenons par ce chapitre, par ces versets que nous avons lus, aussi quelques traités pour ceux aujourd'hui qui font ce travail, ce service de berger, de pasteur. Maintenant, peut-être quelqu'un pense, bon, c'est quelque chose pour seulement quelques frères. Par exemple, si on regarde vers Éphésiens 4, le Seigneur dit dans le verset 11, Éphésiens 4, verset 11, l'apôtre Paul dit dans ce verset que le Seigneur glorifie à la droite de Dieu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pasteurs. Ça veut dire, le Seigneur a donné des pasteurs comme don pour son assemblée. Ceux qui travaillent dans cette assemblée de Dieu, dans le corps de Christ. Ils ne sont pas limités à un lieu, à un rassemblement local, mais ils sont un don à toute l'assemblée. Sans doute, chaque service, chaque don est limité d'une façon ou d'autre. Il n'y a personne qui a un don objectivement universel. Nous avons tous les limites dans nos corps, dans nos facultés, dans nos possibilités. Mais généralement, ce don de Éphésiens 4 est un don pour tout le corps. Alors on peut dire, c'est peut-être, je ne sais pas, si quelqu'un aurait dit ce soir, je suis un pasteur de ce façon-là. Alors c'est peu du monde, peu de frères, seulement des frères en fait, Éphésiens 4, qui ont ce don. Mais est-ce qu'on peut limiter le service des pasteurs, des bergers à cela? Certainement pas. L'apôtre Pierre, comme j'ai dit, il parle du Seigneur comme souverain pasteur, 1 Pierre 5. Et qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre 5, verset 1er, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée, paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillons non point par contrainte mais volontairement, ni pour un gain honteux mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages mais en étant le modèle du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne infléchissable de gloire. Ça nous montre que ceux qui accomplissent le service local des anciens aux surveillants, c'est aussi un service pastoral. Et j'espère que ceux, ici ou ailleurs, qui participe à la réunion des frères, ne pense jamais que ce service est un service des chairs, d'être assis sur les chairs pour parler ensemble, ou sur les genoux, qui est bien de le faire ensemble, n'est-ce pas, comme frères dans cette réunion. Mais le service des surveillants, des anciens, est un service pastoral. Ça veut dire visiter les familles. Nous avons lu. Le troupeau, les brebis connaissent la voix du berger. Et pas seulement de se placer ici, de cette place, mais parce qu'il s'occupe des brebis, parce qu'il s'occupe des croyants dans cette localité. Et sans doute, une partie de ce service est de visiter, de chercher le bien dans les foyers. Certainement, il faut accepter cela aussi comme service, n'est-ce pas? C'est quelquefois aussi difficile. On aime visiter quelqu'un, mais je ne veux pas. Mais peut-être aussi, nous comme frères responsables, c'est un certain résultat de notre manière d'agir. Je me rappelle quand ma femme et moi, on a commencé à visiter les familles chez nous, les premières réactions étaient... quel est le problème? Ils ont pensé, nous voulons venir parce qu'il y a un problème chez eux. Et certainement, ça peut être le cas. Mais le service d'un pasteur ne commence pas s'il y a un problème. Le service, le berger s'occupe de ses brebis, pas seulement s'ils sont malades. Et dans la nourriture, et dans l'encouragement, pour ainsi dire. Et ça, c'est premièrement le service pastoral. Et on voit dans ce chapitre 10 plusieurs détails de ce service. Juste, je voulais mettre, premièrement, je voulais souligner que ce n'est pas seulement un service pour des pasteurs, d'après Éphésiens 4, qui sont un don pour l'assemblée en tout. C'est aussi un service local. Il y a d'autres services pastoraux. Comme nous disons, la réunion des enfants, la réunion pour les jeunes, qu'est-ce que c'est d'autre que un service pastoral? Nous avons vu la pâture, et il trouvera de la pâture pour eux. Il aime les nourrir, le bon berger. Et c'est la même chose pour le pasteur, pour le berger. Il aime à donner la nourriture. Une atmosphère d'amour, de grâce, pour donner l'occasion de grandir, de croître. Ceux parmi nous qui sont des parents, qui ont des enfants, certainement ça c'est un service pastoral. Un service pour aider ce brebis, nos enfants, de grandir, de comprendre, de, premièrement, certainement, de trouver Jésus comme sauveur, après, de grandir, d'être édifié, de vivre avec le Seigneur, d'avoir cette pâture, etc. Et certainement aussi pour les sœurs, il existe ce service. Il est remarquable que... Juste une femme est appelée berger dans l'Ancien Testament, mais il y a une qui était Rachel. Rachel est appelée berger. Et je crois qu'il est utile de comprendre aussi pour vous comme sœur, pour femme, que vous avez aussi un service pastoral. Certainement... comme la parole nous montre, pour les sœurs, il y a des limites. La parole ne montre jamais un service public pour des femmes. Mais comme mère de vos enfants, vous avez normalement beaucoup plus de temps que nous, les pères, pour édifier, pour donner à les petits, à les enfants, ce qu'ils ont besoin. Il y a autant de nécessités parmi les sœurs aussi. Le service d'une sœur est pour les sœurs. On voit par exemple dans Tite 2 un service important pour les sœurs âgées. Je sais que si on parle de cela, personne parmi les sœurs veut être âgé, parce que personne ne veut accomplir ce service. Il y a des services où même l'apôtre Paul ne dit pas à Tite de l'accomplir, mais il dit qu'il doit enseigner à ses sœurs âgées de le faire pour les sœurs moins âgées, Tite 2. Alors, il y a autant des possibilités d'agir comme berger, comme pasteur. Est-ce que nous accomplissons ce service? Et je crois aujourd'hui que ce service, pas seulement un service qui manque beaucoup, qui manque partout, qui était visité les dernières années de nous, hein, qui a reçu ces visites par des frères, par des couples qui ont voulu se s'occuper pour le bien de nous. Et quelquefois, quand je visite un rassemblement où j'ai un peu plus de temps, je demande cette question. Parce que je trouve ce service aussi des anciens qui, dans la parole, est souligné plusieurs fois. Il manque. Et j'ai eu un échange une fois avec un frère dans un cercle des rassemblements évangéliques où ils ont des anciens nommés. On a parlé sur cette question et j'ai essayé de l'expliquer pourquoi, à ma conviction, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il faut admettre que parce que nous n'avons pas les anciens nommés, qui est juste, le service manque souvent. Parce que personne ne se trouve responsable pour cela. Et c'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Les brebis écoutent sa voix, verset 3. Est-ce que les brebis de nos rassemblements, les brebis, mes enfants, est-ce qu'ils écoutent ma voix seulement si je prêche la parole? Ou est-ce qu'ils sont habitués, à écouter, à entendre ma voix, que je prends le temps dans ma vie pour m'occuper de leurs besoins? Est-ce que je prends le temps pour visiter les familles, les personnes indépendantes, les personnes célibataires? Est-ce que je prends le temps pour parler avec mes enfants? Est-ce qu'ils sont habitués à ma voix? Certainement d'après la parole. C'est comme le berger a dû entrer par la porte. Ce service fonctionne seulement s'il est fait sur la base de la parole. Ce n'est pas une psychologie ou n'importe quoi. C'est vraiment basé sur la parole de Dieu. On voit plus tard, dans le verset, je peux prendre juste quelques aspects parce que le temps va vite. Verset 12. Les hommes qui reçoivent des gages. Ça, c'est normal aujourd'hui. Au moins, chez nous, en Allemagne, si on fait un service pastoral, on le fait pour l'argent. Ça, c'est parmi les croyants. Est-ce que nous sommes ceux qui font le service pour le Seigneur? Pas pour les gages, mais pour le Seigneur. Parce qu'on a une conscience que les brebis appartiennent à lui. Ils n'appartiennent pas à nous. Ça, c'est certainement différent avec le Seigneur. Il ne faut jamais essayer de... que les brebis nous suivent. Ils doivent suivre le Seigneur. C'est notre travail, c'est notre service. Mais est-ce que je fais le service pour le Seigneur et pas pour les gages? Verset 13. L'homme à gages s'enfuit parce qu'il est un homme à gages. Et quand il y a un danger, il s'enfuit. Est-ce qu'il y a encore ceux qui se tiennent devant les brebis, qui restent avec ceux qui sont dans le danger, qui essayent de les, de leur les aider dans leur situation? Ou est-ce que nous sommes ceux, s'il y a un problème, s'il y a un danger, on s'enfuit? Le Seigneur est resté toujours. Lui seul est le bon berger, mais il dit, je connais les miens, verset 14. Je connais les miens. Un pasteur, ou un frère, une soeur, des personnes qui accomplissent ce service, ils connaissent les brebis. Ce sont ceux qui ne doivent pas avoir, si quelqu'un vient pour demander la place à la table du Seigneur, eux ne doivent plus parler avec cette personne. Ce sont plutôt eux qui ont encouragé, pour, par exemple, ce jeune frère, cette jeune sœur, pour participer. Ce sont eux qui savent la situation. Certainement, il n'y a personne qui peut savoir toutes les situations de chaque croyant dans un rassemblement. C'est probablement pas possible s'il y a plus que 20-30 personnes. Mais est-ce qu'il y a quelques-uns ici qui savent vraiment, pas seulement dire bonjour, mais qui ont encore des défis de la vie des croyants dans ce lieu? On peut voir si c'est le cas. Tu peux voir pour toi-même comment? Par tes prières. Parce que certainement, le service pastoral commence par la prière. Si tu pries, et on va le faire, n'est-ce pas? On le fait. On prie pour chaque croyant qu'on connaît localement. Si nous prions les uns pour les autres, à la maison, personnellement, qu'est-ce que tu peux prier pour ton frère, pour ta sœur? Est-ce que tu sais le nom? Est-ce que tu sais la situation de ce croyant, de cette croyante? Qu'est-ce que nous savons? Le berger, verset 14, connaît ceux pour qui il travaille, à qui il sert. Est-ce que nous avons, pas pour notre tête, pas pour notre curiosité, mais pour le service, pour être capable d'aider, pour être capable de prier pour cette personne? Est-ce que nous sommes vraiment ceux qui connaissent les siens pour nous? Et je suis connu des miens. J'ai aucun doute que ceux qui ont des problèmes, ils savent à qui ils peuvent venir, à qui ils peuvent aller. Ils connaissent ceux qui travaillent. Ce ne sont pas toujours ceux qui disent toujours « oui, oui, tout va bien ». Certainement, sans amour, quand le Seigneur a eu, c'est pas possible d'accomplir ce service. Sans grâce, c'est pas possible d'accomplir ce service. Mais il faut avoir aussi une claire vue des principes de la parole. Les principes moraux, par exemple, et d'autres. Mais ceux qui sont des brebis, pour ainsi dire, ils savent à qui ils peuvent aller, à qui ils peuvent avoir confiance, qui a une oreille pour eux, qui a une relation avec eux. Parce que sans relation, ce n'est pas possible d'aider. Et le Seigneur a eu cette relation. Je connais les miens. Je connais les miens, il a dit. Et il a appelé eux par nom. Vous voyez, chapitre 12, c'est très intéressant que Jean montre dans les autres évangiles, dans cette situation à Béthanie, Matthieu et Marc ne donnent aucun nom. Pas Lazare, pas Marie et Marthe. Mais Jean le donne dans Jean 12. Parce que le Seigneur appelle ses brebis par son nom. Parce qu'il a une relation avec chacun. Et nous pouvons aider, nous pouvons servir comme pasteur, comme berger seulement, si nous avons une relation avec eux. Le Seigneur, lui seul, a pu dire, verset 15, « Je mets ma vie pour les brebis, dans le sens de mettre sa vie dans le mort. » Mais pour nous, les bergers, ce verset a quand même une application. Donner sa vie, donner son temps, donner son énergie, quelquefois même donner son image, ou qu'est-ce qu'on dit, son réputation. Il y a quelquefois des cas très très difficiles, et chacun a son jugement sur ces cas. Et si on aime à aider, ça peut être un problème pour la réputation. Pour le berger, c'est rien, c'est pas de question. Il veut aider, et dans son temps. Et personne doit penser que ça ne coûte pas énergie. Ça coûte temps, donc coûte énergie, et aussi les difficultés, prier, et les choses qui sont quelquefois vraiment difficiles, ça coûte énergie. Mais on le fait comme le Seigneur l'a fait pour ses brebis, pour les aider. Certainement, le service pastoral a à faire aussi avec le sujet de l'Assemblée, verset 16. Qu'il y a un seul troupeau, un seul berger. Le service pastoral est aussi un service d'édification, d'enseignement aussi. Ce n'est pas seulement des choses d'émotion, mais aussi de leur aider. C'est un service pastoral de suivre quelqu'un qui a des problèmes peut-être avec le chemin que nous allons, que nous trouvons dans la parole. Et est-ce qu'il y a les pasteurs, les bergers qui ont la capacité, mais aussi ce temps, cette volonté de vouloir aider ceux qui ont des questions? Ou est-ce qu'on dit, bon, ils ont leurs idées, alors on les laisse? Non, un berger, il suit ceux qui ont des problèmes pour essayer de les aider. Verset 17, 18 nous montre le centre du service pastoral et aussi de présenter la personne de notre Seigneur, de sa mort, parce que c'est le centre de tout. Et dernièrement pour ce soir, verset 27 à 30, une partie très très essentielle du service pastoral, c'est le problème qui existe souvent aujourd'hui, pas seulement quelque part, mais chez beaucoup des croyants, les doutes sur la sécurité du salut. Est-ce que ça c'est quelquefois vraiment très difficile, parce que c'est quelquefois comme un cercle, hein, on essaie d'aider, on se trouve dans un cercle avec des essais d'aider. Mais sans cette certitude, la vie d'un croyant est vraiment triste. On a toujours peur, est-ce que j'ai perdu mon salut? Et les pasteurs, les bergers doivent avoir un cœur pour ceux qui ont ces problèmes. Et personne peut dire, je ne vais jamais avoir un problème avec cela. Si on a une maladie avec l'âge, ça peut arriver pour chacun de nous. Alors, il faut ceux qui essayent d'enseigner, mais aussi de répondre à ces questions que ceux ont vraiment et qui ont des doutes pour leur salut, que le Seigneur, que personne est capable de ravir les brebis de la main du Seigneur et aussi de son Père. Un service pastoral pour cette question qui est très très appréciée, très très importante. Et j'espère que nous avons cœur pour ceux qui ont des doutes et que nous ne disons pas, j'ai dit maintenant 10 fois, alors je ne peux rien faire. Non, priez pour eux et essayez de les aider vraiment continuellement. Alors, le Seigneur comme berger, il est unique, certainement. Mais en même temps, il est notre modèle. Est-ce que nous suivons dans ce contexte où tu ou moi, je me trouve, tu te trouves? Est-ce que nous suivons aussi le Seigneur pour aider les autres? Lui est le parfait berger, mais il aime d'utiliser ceux qui veulent se laisser instruire par lui et qui veulent suivre son modèle aussi pour le bien de son troupeau.
227. Jésus-Christ nous apporte le salut par la foi. Il dit, je suis la porte, il faut entrer par moi. Pour nous conduire au Père, il est mort sur la croix, et déjà sur la terre. De ses brebis qu'il aime, il est le bon berger. Il les garde lui-même et sait les protéger. S'il leur donne la vie, c'est pour l'éternité. Sa puissance infinie est leur sécurité. Nul ne pourra nous nuire, nous ravir de sa main. Il saura nous conduire dans le voyant notre faiblesse, il veut nous rassurer des soins de sa tendresse, toujours nous entourer. Goûtons en la présence du souverain berger. La vie en abondance qu'il nous fait partager, et dans sa dépendance, marchant en liberté, savoir.